En sol majeur vous propose cette rediffusion.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est fou ce qu'un prénom peut faire voyager. Il y a par exemple Edgar Morin, et là on est tout de suite sur des terres philosophiques. Mais il y a aussi Edgar Quinet, et là c'est le ticket direct pour la ligne 13 du métro parisien. Et puis il y a Edgar Sekloka, et là, on est au pays du béton poétique et du rap psychanalytique. Le grand bonjour à vous Edgar Sekloka.
Bonjour.
Alors le hic, c'est que vous êtes aussi politique. Vous n'êtes pas encarté, pas encartable, en un mot ou en deux mots vous croyez? Mais il y a dans l'air du pied dans la fourmilière. Ancien fondateur avec Gaël Faye du groupe Milk, Coffee and Sugar, notre invité Sekloka la joue autant solo que collectif, autant rappeur qu'écrivain, autant rappeur que chanteur, autant français que camerounais. Ah, ça je sais pas encore. On va déjà ouvrir grand nos oreilles sur Ici et là-bas, extrait de son premier EP.
Je leur réponds que je suis né ici, quand ils me disent qu'ils me veulent là-bas. Mais bon, je sais bien qu'ici, je serai aimé comme là-bas. Parfois, je voudrais vivre là-bas. Peut-être je mourrai pas ici. Enterrez-moi dans du béton là-bas, ou dans un champ de coton ici. J'apprécie le confort ici, comme le tourisme là-bas. Comme ma mère venue ici, récupérer ses richesses de là-bas. La reine Sissi se balade ici, avec les bijoux de là-bas. La reine Saba n'a plus rien là-bas. On sait tous pourquoi ici. Les partis politiques d'ici s'appuient sur les PIB de là-bas. La colonisation y'a qu'ici, qu'on croit qu'elle n'existe plus là-bas. Les journaux font tout ici, pour qu'on sache rien de ce qui se passe là-bas. Si y a un génocide là-bas, c'est la coupe du monde ici. Je viens d'ici, je viens de là-bas. Les gens de là-bas, avec un dieu bien d'ici. In God we trust, c'est ici. Et l'argent fait des guerres là-bas. Mes frères s'entretuent là-bas. Ils se font pas confiance ici. Dealer ici, soldat là-bas. Main d'œuvre ici comme là-bas. Élevage bovin, c'est ici. Élevage humain, c'est là-bas. On est des sous-hommes là-bas, des hommes en développement ici. Le palud, le sida, c'est là-bas, les centres de recherche ici. La malnutrition, c'est là-bas, la surconsommation ici. Les dictatures de là-bas font les démocraties d'ici. Et quand on me contrôle là-bas, j'exhibe mes papiers bien d'ici. Pédigré, immigré ici, mince, dénigré là-bas. Pour pas me perdre ici, je chantais, ça résonne là-bas. Chantez
Edgar Sekloka dans le fauteuil dans sol majeur. Alors ma première question, elle est simple. Est-ce que vous aimez vous appeler Edgar?
Oui. Quand j'étais petit, je n'aimais pas. Je voulais m'appeler Arnold, parce que je regardais Arnold et Willy. Et je m'appelle Edgar parce que mon père était un politique plutôt de droite, assez brillant, beau parleur, un peu escroc aussi, je crois. Et je crois qu'il aimait bien le ministre Edgar Faure. Je pense que c'est un peu à cause de ce monsieur, ou grâce à ce monsieur, que je m'appelle Edgar.
Quel héritage. Ouais. Alors, autre question après ce ici et là-bas, qui est bien ficelé, je trouve. Vous êtes d'où, finalement ?
Intimement, je crois que j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui me permette de pas vraiment me situer. J'aime bien cette idée. Après, au niveau des papiers, tout ça, je pense que je suis d'une ambassade camerounaise en France. C'est-à-dire que ma mère m'a éduqué en France dans une petite commune, plutôt très riche d'ailleurs, qui s'appelle Puto. Et sinon, j'ai des origines camerounaises et béninoises.
En tout cas, votre histoire, celle d'Edgar Sekloka, moi j'aime bien ce prénom pour un sol majeur, elle commence ici, effectivement, avec un peu de là-bas.
Ça s'est passé le 28 juillet.
B comme...
J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision.
Boîte à souvenirs.
Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris.
Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là?
Ah, que tiens-toi bien, pépélé, tu vas rigoler aussi.
Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins.
Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou.
Coucou.
Ah, que ça marche.
Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps.
Je te signale que ton père te parle.
Hein? Il nous fait chier à lire tout le temps. Qui c'est que c'est quoi son... Yourcenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien?
C'est un empereur romain.
Yourcenar, c'est un empereur romain?
Mais non, Adrien.
Oui, bon dit, hein, ça va, hein?
T'as qu'à répondre aussi.
Hein, qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé... C'est ton Yourcenar qui a taillé la haie? Bon, alors... Dis donc, allez, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Fâché jusqu'au mat, ça, je...
Ah, ça, il nous fera chier. On n'est pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge.
Toba fella way, oh milo malo. If you want go wash, now what are you going? Toba fessé bé, oh milo malo.
Boîte à souvenirs sur RFI avec, à part Fella, des références très françaises, hein, Edgar.
J'ai grandi là-dedans, hein. j'ai grandi là-dedans. Ouais, c'était les premiers souvenirs qui me sont venus. Donc,
vous êtes né en 78 à Paris, donc ouais. Vous avez eu le temps apparemment de voir l'inoubliable secrétaire général du Parti communiste français pendant plus de 20 ans, hein, jusqu'en 94, j'ai nommé Georges Marchais.
Ouais. J'étais vraiment petit, mais voilà, ces discours me marquaient. Et puis voilà, ils ont quand même beaucoup alimenté les dîners familiaux, ceux qui justement étaient plus mitterrandistes et les autres qui étaient un peu plus Marchais, voilà. Donc, mais je crois que le personnage de Marchais me plaisait le plus quand j'étais gamin, mais je comprenais pas pourquoi. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que je sais pourquoi. Enfin, c'est peut-être inconscient.
Pourquoi?
Ben, je crois que l'idée, hein, je parle de l'idée, de l'utopie, certains appellent ça comme ça, mais moi je pense que c'est une idée communiste, me plaît bien. Je dis pas qu'il faut faire fi des dérives communistes, mais je pense que l'idée est même plutôt belle, et que quand on regarde l'idée capitaliste, elle est plutôt destructrice, alors que l'idée communiste, elle ne l'est pas.
Alors à côté de cette grande idée du partage, vous avez aussi été sensible, comme bon nombre de Français d'ailleurs, à l'humour des chiens. Qui là, ouais. Les Deschiens, avec la compagnie Jérôme Deschamps, ils représentent un peu le stéréotype du français de province, borné, pour pas dire plus.
Ouais, mais ça passait à l'époque sur Canal. C'était une culture que je connaissais pas finalement, parce que quand bien même j'avais des amis, je sais pas, sans origine africaine, pour moi ils représentaient pas forcément la France, c'était des archétypes. Et ça me faisait rire.
Dans tout ça, l'Afrique, elle arrive comment? Elle passe apparemment d'abord par la musique, pour vous.
Essentiellement par la musique et les récits familiaux, c'est-à-dire que j'ai ma mère qui est un peu l'héroïne de ma famille et qui, en fait, a fait venir ses frères, qui ont été mes pères. Et voilà comment l'Afrique est venue en moi. C'est qu'en fait, le Cameroun était chez moi. Et petit d'ailleurs, je voulais m'en extirper. Parce que je voulais être comme ce que j'imaginais que mes copains étaient, c'est-à-dire sans une forme de, ouais, d'africanité, on dirait ça comme ça. Et puis, ouais, c'était pour moi chiant parce qu'il y avait des choses que je voulais vivre seul, je voulais de l'intimité, je voulais un peu tout ce que mes amis avaient et qui pour moi était une norme. Et puis en fait, j'ai su m'en défaire.
Et en même temps, et là c'est ma question juste provocatrice, ou c'est une remarque provocatrice, vous avez beau être noir et rappeur, vous n'êtes pas issu des quartiers populaires, et encore moins du ghetto.
Ah, pas du tout. Et moi, je n'ai jamais revendiqué. Je suis bourgeois, ma mère est venue à Puteaux, elle y est restée alors qu'on vivait la précarité. Par contre, si, parce qu'on était nombreux, très nombreux, entre 10 et 12 en fonction des allées venues des les uns des autres à la maison. La maison, c'était un F3. Ma mère y habite.
Mais dans
toujours.
Un des départements les plus riches.
Aujourd'hui, je crois que c'est la commune la plus riche. Donc oui.
Comment elle a décroché ça, maman ?
1% patronal. Voilà.
Grandir dans un quartier riche et majoritairement blanc, on va dire, est-ce que ça a été une chance, vous pensez, pour vous ?
Je crois vraiment que ma chance, c'est ma famille et ma mère, vraiment, parce qu'elle a une ouverture d'esprit inconsciente qui lui a permis de nous faire voyager à l'époque avec le comité d'entreprise de Renault, et donc on a voyagé partout dans le monde. Et donc, ça nous permettait de faire tomber les œillères. Si j'avais été dans une banlieue moins riche, j'aurais quand même eu cette singularité-là, c'est-à-dire le voyage et cette ouverture. Ça, je crois que c'est ce qui me constitue. Après, le cadre, plutôt... Ouais, je m'en foutais, parce que je faisais beaucoup de sport, j'avais beaucoup d'amis, des quartiers moins riches que les miens, et je n'étais pas là-dedans du tout. Et surtout, il y a un processus d'identification, c'est-à-dire qu'étant noir, même dans une commune riche, j'étais celui qui représentait les ghettos. Alors, moi, j'en jouais, mais...
Ah, vous voilà. En jouiez ?
Oui, oui, première boom, vous êtes en sixième, on vous passe un morceau d'MC Hammer, et on attend que vous fassiez le show. Moi, je m'en foutais, parce que j'aimais cette chanson, donc j'ai dansé. Et ouais, je singeais le Prince de Bel Air, puis j'avais beaucoup de succès, donc ça me plaisait.
Some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
But until then, you know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit.
B comme paysage intérieur.
Some might even die. The revolution comes.
Bah oui, c'est qui ? C'est forcément les célèbres Last Poets que vous avez écoutés dans votre adolescence, Edgar Sekloka. Et pour autant, d'après ce que je comprends, même en les écoutant, vous n'avez pas commencé à vous vivre comme un nigger.
Non, j'ai découvert ma peau tard. Il y a une anecdote familiale que je porterai toute ma vie qui dit qu'en arrivant au Cameroun à 2 ans, j'ai demandé pourquoi il y avait autant de noirs ici. Donc j'en avais pas conscience et aujourd'hui après réflexion je trouve que c'était plutôt heureux et je pense que je dois ça à ma mère. À l'école aussi, un jour je rentre de l'école et je dis à ma mère « Ah ben, c'est vrai maman que je suis noir ou marron ?» Et elle me dit « Qui t'a dit ça ?» Je lui dis que c'est une enseignante ou une animatrice. Et là j'ai 5 ans je crois. Elle va voir l'animatrice, elle lui dit « Mais pourquoi vous lui avez dit ça ?» Lui, laissez les enfants faire leur apprentissage tout seul, mais c'est pas à vous de leur dire ça. Voilà, ça symbolise, ça résume bien ma mère, pardon. Et je trouve que c'est beau. Et donc j'ai eu conscience dans l'adversité de ma couleur de peau, du fait d'être nègre, mais je me suis longtemps vécu comme un négro, c'est-à-dire en victime. Nègre, c'est pas du tout un victime, c'est un mot qui est chargé d'histoire et qui est beau, mais qui me représente. Négro, c'est autre chose. Et je sais que très tôt, parce que justement j'ai pu voyager et faire pas mal de séjours linguistiques, j'étais souvent le seul noir. Et la première chose que je disais arrivé là-bas, c'est celui qui me traite de sale noir ou de sale nègre, enfin, là j'étais violent. Mais c'est une quête identitaire qui était normale et que j'ai vaincue. Mais je me suis, dans la victimisation, je pense que je me suis beaucoup cherché. Puis j'en suis sorti avec les lectures.
Est-ce que, à quel moment vous diriez, je ne sais pas si vous vous définissez vraiment comme ça, vous vous êtes senti appartenir à ce qu'on appelle la génération consciente ? Vous vous réveillez apparemment.
Non.
il est 16h du mat.
Peut-être avec la rencontre, je pense, de Champ d'encre. C'est-à-dire
collectif
slam, il y avait donc Abkas, Negus, Sab, Gaël Fay. C'est eux qui m'ont permis de sortir une forme de victimisation et d'aller vers des réflexions que je n'avais pas et des situations politiques que je ne connaissais pas, notamment le Congo, le génocide des Tutsis Rwanda. Ça m'a permis d'appartenir à une génération de personnes qui ont conscience d'eux-mêmes.
Une génération qui lit et du coup, ça produit un rap. Et évidemment, il y a rap et rap, vous en serez d'accord, Edgar Sekloka.
Ouais.
Et vous avez, avec ce groupe Milk, Coffee and Sugar, vous avez commencé à tester, on va dire, des pistes de réflexion, par exemple avec un morceau comme Alien. Ce mot, il est introduit par les mots du sociologue français Pierre Bourdieu, qui disait « Tant qu'on brûlera des voitures, on enverra des flics ». Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Alors ça, c'était un pavé dans la mare de quel rappeur ?
Cette chanson, c'est Gaël qui l'a écrite, Gaël Fay. Ça répondait en fait à... C'est un dialogue, un échange qu'on avait avec le texte « Banlieusard » de Kerry James. Parce que dans cette chanson-là, Kerry James encadre les jeunes dans des fonctions qui reproduisent le système. Et nous, on disait, enfin, on avait cette idée de dire que nous, on veut pas reproduire le système, on veut s'en défaire. Il y a une phrase qui me vient là du texte. Tant qu'on construira des voitures, ou deux fois plus de voitures, on sera toujours dans le système. Donc ça ne changera pas vraiment notre condition.
C'est intéressant parce que Gaël Fay traite carrément Kerry James de conservateur. Il dit qu'il y a des rappeurs qui sont beaucoup plus conservateurs que certains penseurs de gauche. Quitte à se fâcher avec une grande partie du 9-3, est-ce que vous savez pourquoi vous faites du rap ?
Je fais du rap parce que ça me permet de m'exprimer, de me questionner. Écrire le rap, ça me constitue, c'est quelque chose qui m'a, je dirais pas sauvé la vie, mais qui m'a permis d'aller vers l'ouverture d'esprit dans laquelle ma famille m'avait mise, de continuer à être là-dedans. Aujourd'hui, je peux dire que je suis quand même à mi-chemin de savoir quel individu je suis, tant au niveau social qu'au niveau intime.
Mystère. Vous savez quoi, il n'y aura pas de Kerry, il n'y aura pas d'Edgar au programme, là immédiatement, pour un sol majeur. On va plutôt monter dans le train d'une guitare presque hawaïenne, signée pourtant du Congolais Dr Nico et son African Fiesta Sukiza. C'est un guitariste d'ailleurs qui a reçu dans les années 60 la visite d'un certain Jimi Hendrix. Respect. Oui. Pourquoi ce Dr Nico dans votre programme en sol majeur ?
J'aime bien la chanson. Je sais pas. J'aime bien sa musique et ça me parle, ça m'apaise.
C'est planant, hein.
Ouais,
vous avez un goût pour les musiques très caressantes. Vous n'êtes pas du tout dans des musiques, on va dire, agressives, urbaines au sens agressif du terme. Dans votre choix musical,
je m'aperçois de ça. Je m'aperçois de ça avec le temps. Alors j'aime bien les tripes et c'est pour ça que j'aime le rap, parce qu'il y a ça. Mais il y a aussi, je pense, dans le rap, beaucoup de douceur. Et je pense que je l'ai avec ce genre de chanson.
Polina mama, zala se wangai, zamba salayo, kito kompona bato. Le noyo zu wangai, kozanga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Kota nakati ya tolo nangai, lalisa miso, poyo lakisa, tozuli panda. Polina mama, zala se wangai, zamba salayo, kitoko pona bato. Lelo yozu wangai, Kozonga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Kota nakati ya tolo nangai, lalisa miso, koyo lakisa, tozini panda. Et ce qui n'a pas eu, quand on a vu, c'est bon. Polina mama, sala se wangai, samba salayo, kito kompona bato. Leno yonzu wangai, kozonga si mate. Kati ya tolo na ngai na lisa miso boyo la kisa toji ni panda ata koyo boingai wazali kaka souveni ya bolingo kasi na motema na ngai na pusi koninga yo.
C'est Dr Nico qui taquine toutes les Paulines des années 60 avec l'African Fiesta Sukiza sur RFI et ça inspire en sol majeur Edgar Sekloka, un quarantenaire qui pimente son rap français d'histoire. Oui, mais laquelle ?
Y a-t-il un chapitre d'histoire qui vous touche particulièrement ?
Le discours de Oum Niobe, la naissance aussi de l'UPC, c'est sûr tout ça. La naissance de l'Union des Populations Camerounaises avec Ruben Oum Niobe en tant que leader.
Et comment ça se fait ? Vous êtes jeune ?
Oui, mais j'ai une famille qui était engagée politiquement, surtout mon grand-père. Et puis, il a été membre de l'UPC et il a joué un rôle à des moments donnés. Important.
Est-ce qu'on peut juste savoir si l'histoire s'est bien finie ou pas ?
L'histoire s'est bien finie, étant donné que sa famille est quand même là. Mais non, pas super quand même.
Bon, en tout cas, tout ce qui touche à l'histoire du continent et en tout cas du Cameroun, c'était à la maison, c'était autour de la table. Ça s'est invité tout de suite dans votre vie. Mais à quel moment vous vous êtes intéressé au monde noir ?
Vraiment, je reviens encore sur ce collectif, mais sûrement qu'on m'a permis d'y aller et d'avoir des auteurs que je ne connaissais pas. C'est grâce à Chambre d'encre que j'ai connu Frantz Fanon. Parce que pour moi, c'est très lié. La question de l'homme noir et aussi des rapports de la France avec ses anciennes colonies, le soleil des indépendances. C'est grâce vraiment à Chandon que j'étais quand même déjà à la fac. Donc je trouve c'est tard. Et ça, c'est parce que je pense qu'il y a des manquements au niveau de l'apprentissage de l'histoire dans le programme que j'ai vécu.
Alors, vous savez qu'en France, on est dans une période de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Comment vous débrouillez-vous avec cette mémoire de l'esclavage, Edgar Sekloka ? Est-ce que vous vous sentez concerné ? Est-ce que vous faites des recherches sur ce que la famille aurait vécu ? Je rappelle que vous avez une partie béninoise, donc très concernée par ce dossier.
Alors là, je suis sur mon troisième roman. L'air de rien achèvera quelque chose de l'ordre d'une œuvre que j'ai sur le Cameroun, de mon rapport avec le Cameroun. Et ensuite, j'entamerai le rapport que je peux avoir avec le Bénin, parce que je ne le connais pas. J'ai un nom qui est béninois, je m'appelle Edgar, donc c'est Sekloka, c'est complètement béninois, mais ma culture est camerounaise. Et donc du coup, pour l'instant, je connais rien du Bénin. Surtout que mon père est décédé, j'avais 10 ans, et que c'est le seul qui aurait pu être à même de m'instruire.
Et donc sur cette question de l'esclavage,
sur l'esclavage,
quand
je
vous
pense
entendez
que
toutes ces commémorations, où est-ce que vous vous situez ?
Je trouve que c'est nécessaire, mais je crois que je commémore l'homme noir et donc forcément une partie de l'esclavage dans ma vie au quotidien.
Ah bon ?
Ouais, j'en suis même sûr. Ma parole, elle est celle d'un homme, un homme noir. Forcément, je dis pas tout le temps. Je suis noir parce que j'ai bien conscience que ça peut heurter, parce que justement l'histoire de l'homme noir
peut porter certaines personnes à culpabiliser là où je vois pas. C'est juste de l'histoire et je pense que c'est important, notamment pour les générations qui suivent, de savoir d'où elles viennent. Ce qui me fait mal, parce que je fais pas mal d'ateliers d'écriture, c'est d'entendre les jeunes se traiter de blédards. Et ça, je pense que c'est parce que précisément, il n'y a pas de transmission. Et donc, la commémoration, c'est quand même un point de transmission. Et...
D'où ce spectacle qui vient d'avoir lieu, Musique Noire au MK2 au Quai de Seine à Paris. Spectacle que vous avez conçu autour de l'esclavage. Enfin, vous faites un lien entre l'esclavage d'hier et l'esclavage moderne.
Voilà.
Racontez-nous.
C'est
à partir d'un texte de Le Roi Jones.
À partir de Le Peuple du Blues, voilà. Oui, je fais un lien direct entre l'esclavage et l'aliénation moderne, la servitude. Et je raconte que les esclaves d'hier sont les dominés d'aujourd'hui. Et les dominés, c'est souvent ceux qui n'ont plus l'espace pour penser et qui sont abrutis par leur travail. J'ai la chance d'avoir un boulot qui me permet de toujours cogiter. Et je pense que ça devrait être une norme. Et la plupart du temps, quand je discute avec des amis proches, on me dit que non, il faut à un moment donné gagner sa vie. Et ça, c'est un grand problème. Donc, j'ai voulu faire ce spectacle parce que voilà, pour donner mon point de vue. Et en gros, il y a des images qui sont projetées de moi déambulant dans les rues de Paris à des endroits précis.
Lesquels ?
Par exemple, vous savez, près de la Tour Eiffel, vous avez tous ces revendeurs de petites Tours Eiffel à la sauvette. Et on se demande jamais qui ils sont, comment ils font pour vivre. Mais ils sont là, et là, il y a un contraste frappant, enfin, je trouve violent. De leur statut à eux, souvent ils sont sans papier, pourtant on leur autorise plus ou moins de vendre leur petite tour Eiffel, ça fait partie du folklore, qui viennent vendre ça à des touristes, à des gens qui sont aussi des étrangers, mais qui eux ne sont pas les mêmes étrangers. Et donc on me voit traîner là, et je chante une chanson qui parle de l'esclavage. Voilà,
C'est quoi les premiers mots?
Alors c'est en créole, et je m'excuse auprès des parce que je suis
créolophone.
Pas voilà,
non, c'est un cadeau en même temps, allons-y.
Donc c'est mes amis, gardez sa mokawe, gardez là-bas, yo katwe malere. Mes amis, gardez sa mokawe, gardez là-bas, tout malere kamo. Gade mi milo di tout ça. Gade là-bas, yo katwe malere. Gade mi milo di tout ça. Gade là-bas, tout malere kamo.
C'est drôlement joli.
Merci.
Ça
merci
dit quoi,
beaucoup.
En gros?
En gros, c'est quelqu'un qui est sur une galère et qui dit regardez là-bas. Il y a Émile qui nous attend sur une île de la liberté. Et après, je rappe un texte qui est très littéraire sur l'homme libre. Voilà. Bon.
Alors moi, ce que je trouve assez joli, c'est que votre génération, vous avez 40 ans, hein, Edgar Sekloka, vous vous inspiriez du Roi Jones dont vous venez de nous parler. Et le Roi Jones qui est mort en 2014, hein, c'est tout à fait récent. Je rappelle qu'il est essayiste et dramaturge afro-américain qui a rejoint le mouvement du nationalisme noir après l'assassinat de Malcolm X. Vous savez tout ça, bien sûr.
Oui, je sais qu'il a changé son nom aussi.
Absolument. Ouais. Il s'est converti à l'islam et donc il a changé de nom. Puis il est l'auteur de Métro Fantôme qui a été adapté au cinéma sous le titre Dutchman. C'est un film incroyable où il nous plonge dans l'obscurité du métro new-yorkais où un certain Clay, c'est un noir, qui essaye pendant tout le film de singer les blancs, rencontre une pseudo-intellectuelle blanche totalement hystérique et qui, elle, tente de singer les noirs. Et ce renversement de rôle va rendre la relation entre le noir et la blanche mortifère.
Come on, Clay! Let's do the choo-choo train shuffle! Oh, there's Uncle Tom. I mean, Uncle Thomas Woolly-headed. He's a white, matted man. Hobbled on his wooden cane. Oh, Tom. Like a white man humped his old mama, he'd his shepherd off in the woods and hide his gentle red head. Oh, Thomas Woolly-head. Oh, Thomas Woolly-head. You let me go! You black son of a bitch! You let me go!
Why don't you shut the hell up? Keep your stupid mouth closed. You don't know anything, so just keep your stupid mouth closed.
You're afraid of white people.
You telling me what I ought to do? Well, don't. Don't you tell me anything. If I'm a thick middle-class white man and you let me be, I'll rip your lousy breast off. I'm going to tell us whether it's none of your business.
Un moment en noir et blanc donc sur RFI avec un extrait de Dutchman sur un scénario de Le Roi Jones où donc on assiste à la danse lascive, hystérique et prédatrice de la blanche qui finalement fait exploser de colère le black man. Ça vous inspire une réflexion, Edgar Sekloka ?
Bon, j'ai trouvé que c'était rudement bien joué. Pour moi, c'était bon, comme c'est un huis clos, ça relevait beaucoup plus du théâtre que du cinéma, quoique. Et ce que j'ai aimé, c'était, oui, leur rapport. Elle représentait pour moi la société de l'homme blanc. Et cet homme noir qui essaye d'y être intégré. J'ai vu pas mal de violence parce que c'est d'abord elle qui le provoque. Lui, il est tranquille. C'est elle qui le provoque.
Elle le provoque sexuellement.
Elle le provoque sexuellement. Puis ensuite, elle s'en va. Et c'est lui qui va la chercher. C'est-à-dire qu'il a, c'est lui qui la cherche comme s'il fallait bomber. On peut pas en rester là, on a créé quelque chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et au final, il crée un lien, et à la fin, il se rend compte qu'elle l'utilise. Et ça, je trouve ça très violent. Et lui, du coup, il est en révolte. Mm-hmm. Mais au départ, il ne l'est pas du tout. Il est même plutôt accueillant.
Pacifique.
Voilà.
Alors la question, c'est pour cette génération de fils de la nuit, c'est comme ça que s'appelait l'auteur afro-américain Dubois, c'est tellement joli comme expression et tellement tragique en même temps. Pour lui, il y avait cette double conscience d'être américain et noir, les deux à la fois. Est-ce que ça peut s'appliquer à un petit Frenchie des années 2000 comme vous ? Est-ce que vous êtes dans cette quête-là, dans cette conscience d'être à la fois noir et à la fois français ?
J'ai conscience d'être... noir d'une colonie française vivant en France.
Tout ça.
Voilà, c'est ça, j'en ai vraiment conscience. Parce que ça change les rapports qu'il y a entre les personnes ici en France et même mon statut quand je suis au Cameroun. Bon voilà, au Cameroun, je suis le petit blanc. Ici, je suis le petit Camerounais noir. Et j'ai conscience que ça, c'est lié juste à l'histoire, pas à moi. Donc, mais ça, il m'a fallu du temps. Et maintenant que je suis détaché de ça, je peux comprendre. Donc, j'accepte cette histoire parce qu'elle fait partie de moi. Mais c'est pas du tout comme ça que je me définis. J'accepte une partie de mon histoire, mais je me définis autrement.
C'est-à-dire ?
Ah ouais, je pense que je n'ai pas du tout une identité. D'ailleurs, je fais un spectacle avec des jeunes là, qui s'appelle Les Identités. Je m'arrêterai. Je pense que s'arrêter à une identité, c'est ce qui peut créer des nœuds qui peuvent, quand ils sont grossis, peuvent créer des conflits intérieurs puis généraux. Moi, j'ai des identités plurielles et je suis très bien avec ça.
L'une de vos identités, c'est d'être auteur. Et donc, il y a une page, ça vous va comme identité, ça, c'est pas mal. Il y a une page récente de l'histoire du Cameroun qui vous a marqué. Ce sont ce qu'on a appelé les émeutes de la faim en février 2008. Ça se déroulait au moment où le président Biya tentait un troisième septennat, la Constitution n'en prévoyant que deux mandats, en sachant que M. Biya affichait déjà 26 ans de pouvoir autocratique, soldé, comme le disait la presse locale à ce moment-là, par 26 ans de pauvreté.
Plusieurs milliers de jeunes ont tenté de marcher ce matin vers les services du gouverneur.
Tension sourde à Douala.
Sur les pancartes qu'ils brandissaient, on pouvait lire les prix qu'ils souhaitent voir appliqués sur les produits de grande consommation.
Deux jours de violence.
En plus du carburant, font désormais partie du panel des produits dont les coûts sont estimés trop élevés. Ils espéraient le dire au gouverneur, mais leur marche a été dispersée.
La police a commencé à charger immédiatement.
La répression est en marche, l'armée est présente partout.
Sur ceux qui étaient là et qui s'apprêtaient à rentrer.
Les violences ont fait au moins 17 morts.
On ne voulait pas savoir où ils allaient.
Nouveau bilan de 40 morts.
Et on a chargé immédiatement.
Les manifestants, toujours autant nombreux sur les routes, réclament que Paul Biya s'exprime sur la crise.
Que les choses soient bien claires. Le Cameroun est un état de droit et entend bien le rester. Il a des institutions démocratiques qui fonctionnent normalement. C'est dans ce cadre que sont traités les problèmes de la nation. Ce n'est pas à la rue d'en décider.
Hier, les syndicats de taxi ont appelé au calme.
Ils sont pas d'accord avec les personnes qui se mettent à détruire les biens de la République et qui plus est, sont les biens de tout le monde. Notre grève est pacifique. Nous avons un gouvernement avec lequel nous dialoguons. On ne fait plus rien dans la clandestinité. Tout est fait, n'est-ce pas, au vieux, au sous du monde. Quand il y a un problème, on les pose et on en discute. Quand on n'arrive pas à un compromis, alors on arrive, n'est-ce pas, au débrayage et puis on espère qu'à terme, on aura une solution.
Je vous ai vu sourire en écoutant la voix de Paul Biya,
oui,
Edgar
oui.
Sekloka.
Oui, c'est...
Un résumé radio, donc merci RFI, un résumé de cette affaire. Pourquoi est-ce que vous qui vivez ici, en Île-de-France, tranquillement, vous avez choisi ces émeutes du Woury pour démarrer votre second roman, Adulte à présent ?
Parce que ça m'a frappé, ça m'a fait mal. J'essaie, juste par empathie, je pense que c'est aussi une façon pour moi de lier avec mon histoire camerounaise.
Vous avez une dette ?
Longtemps je l'ai cru, mais là non, c'est juste que ça m'inspire et que c'est plus facile pour moi d'en parler parce que c'est j'ai une histoire avec. Donc, et puis,
facile, mais en même temps vous êtes en dehors du Cameroun.
Voilà, mais c'est pour ça que je ne me permets pas de... Déjà c'est de la fiction, mais je ne me permets pas de prendre position politique pour le Cameroun parce que moi je reste à l'extérieur, je vis en France. Je suis dans mon petit confort, donc c'est beau, voilà. Et je ne vais pas faire affront à mes cousins qui sont là-bas.
Alors, votre livre s'ouvre sur la famille Podier, dont le père est un oumniobiste, qui va se retrouver pris, lui, sa femme et sa fille aînée, dans ces émeutes du Woury. C'est une figure tutélaire, comme ça, ce paternel. Qu'est-ce qu'il représente, le père Podier, dans ce Cameroun 2008 ?
Il représente une utopie, un autre possible politique, auquel tous les acteurs de la scène camerounaise politique croit, mais la réalité c'est que très souvent elle est annulée financièrement, c'est-à-dire que on va les acheter ou elle est annulée, elle disparaît, elle est tuée. Voilà, je me suis servi de cette manifestation qui a eu lieu et qui a fait une centaine de morts. C'est quand même le président qui a chargé j'en ris mais c'est nerveux, l'armée de tirer sur des gens qui étaient là pour manifester pacifiquement et qui a été réélu après.
Alors ce père est... Il ressemble étrangement à votre papa, qui a été un opposant à Aïdjo il y a de nombreuses années.
Non, mon grand-père.
C'est votre grand-père,
ouais,
pardon.
Oui, c'est mon grand-père. Oui, qui, voilà, et qui a... qui a été emprisonné pour ça, oui.
C'est ça la dette, quand on parle de dette, pour vous ?
Certainement. Et puis il y a une dette aussi familiale, c'est que... Vraiment, ma mère et mon grand-père ont fait beaucoup pour notre famille et je me devais de rendre ça et pas de garder ça pour moi.
Alors dans ce roman, toute la famille disparaît dans ces émeutes, sauf la cadette, 15 ans, qui se retrouve seule en une heure de temps. Et elle se retrouve aussi dans la grande maison familiale, réquisitionnée par les rebelles. On ne va pas raconter le roman, mais en tout cas, pourquoi mettre une jeune adolescente face à ce chaos politique camerounais ?
La conscience politique camerounaise, elle se fait aussi avec les jeunes. Et je sais que ce qui m'avait marqué en écrivant, c'était aussi le fait qu'on emprisonnait l'opposition étudiante. Et puis, je faisais aussi une comparaison avec les jeunes en France, où la conscience politique a tendance à s'effriter, même dans les dîners par les politiques. On va se disputer, on va s'unir, soyons sur quelque chose de plus léger, ça m'embête un peu.
Alors là, votre orpheline, non seulement elle est consciente politiquement, elle était en dialogue très fort avec ce père qui vient de disparaître. Là, après le deuil, elle trouve refuge auprès de quelque chose d'incroyable. Il y a une petite dimension fantastique dans votre roman. Elle trouve refuge auprès d'un grain de beauté, d'un de ces grains de beauté sur la peau. Et il y a comme un dialogue entre eux. Et ce grain de beauté va lui suggérer de tomber amoureuse. Alors on ne va pas en dire plus, il faut lire la suite de cette intrigue où votre orpheline va se retrouver à New York face à un ado de 13 ans qui lui veut se débarrasser de sa famille. Ma question c'est, est-ce que c'est en fait un roman à charge contre le monde des adultes ?
Ça c'est une de vos conclusions et je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est inconscient.
Vous êtes en colère ?
Oui, contre le monde adulte.
Les adultes font que des bêtises, et quelles que soient les latitudes, hein, parce que donc partie du roman se passe au Cameroun, une autre aux États-Unis.
Et à chaque fois, ce sont soit le fils, soit la cadette.
Ce sont des adolescents.
Je pense que les plus jeunes ont cette capacité à rêver et à croire en ça. Il ne s'agit pas de le réaliser le rêve, mais d'y croire. Alors que enfin, je ne vais pas être manichéen, mais les adultes sont très souvent cyniques et ne croient plus. Et donc, ça. Ils font avec le monde tel qu'il est, ne cherchent plus à le changer, mais voilà, il est comme ça. Voilà, cette phrase-là, c'est comme ça, que j'entends souvent, ça me désole au plus haut point.
J'aimerais bien qu'on entende un extrait de ce roman, page 47. Je crois que c'est un des rebelles à qui vous donnez la parole dans Adulte à présent, Edgar Secloca.
Écoute bien. Ce que nous subissons, je ne le tolère plus. Les femmes, elles ont un goût inestimable, mais elles ne cuisinent plus ici parce que les condiments épices sont trop chers. On nomme des chefs, des rois, soi-disant députés du monde, un peu partout dans nos villages. Mais ils ne baissent pas les prix, ils les élèvent comme des enfants. Et ils grandissent les enfants, mais pas les salaires, alors que le pays est au chômage. Sauf au palais présidentiel, où les députés du monde se retrouvent pour comparer leurs dernières femmes. Des femmes du monde, bien sûr, puisqu'ils en sont les députés. Des femmes faciles, des femmes à qui ils payent les condiments jartels pour mieux leur cuisiner la chair. Alors petite, dis-moi, à quel type de cuisine ai-je affaire avec toi ?
Près des voitures, une femme en est, quelques beignets, route toi la Yaoundé, elle compte quelques deniers, l'axe lourd relie les deux villes les plus courues, mais le poids de la solitude rend la dame bossue. Elle vend ce qu'elle cuisine, la misère fait cantine, pauvreté étouffante pour une famine sous vide, visage marqué, depuis petite, l'âge d'or de la crise creuse, des rides en pépite, 50 ans que ça dure à ce qu'il dit au village, tournant de l'indépendance, c'est un mauvais virage, le Cameroun l'a pris, accident, souvenir d'Aïdjo élu président, 2 ans plus tard, son mari se faisait tuer, la faucheuse touchait les partisans UPC. PC ne lui restait que son fils unique qu'à la mère veuve. Alors elle l'exila vers des terres neuves.
La guitare, le rap, les cuivres, le souffle, la basse, le slap, c'est le Cameroun Blues. Cameroun Blues.
Il n'enseigne pas ce qui est vrai, lui le prof d'histoire, il suit les livres programmés, leurs trous de mémoire. Angleterre, Allemagne, maintenant il vit en France. Il parle 3 langues mais il cache son patois d'enfance. Aucune honte mais la haine à son officine. Entendez les commères parler de ses origines. Et il explique à sa maternelle. Coup de fil mensuel, mandat cash ponctuel. Psychanalyse à distance, dans ses conseils sa mère lui rappelle qu'il porte un prénom de légende. C'est qu'elle d'un mythe, il s'appelle Ruben. Ça n'évoque rien à ses classes napoléoniennes. Instrument d'instruction coloniale, comme un lion qui n'a vraiment rien d'indomptable. Citoyen de la diaspora à d'autres, occidental et camère, il ne veut plus être neutre.
La guitare, le gratte, les cuivres, le souffle, la basse, le slap, c'est le Cameroun Blues.
Maison natale, près d'une maman contentée, il est rentré. Pour se réinventer, retrouvailles bavardes, ils en viennent à se disputer au sujet d'un morceau qu'il va interpréter, l'envers du ralliement. Titre avorté, Cameroun Blues, c'est plus approprié. Il se lève, la bouscule pour passer, la mère pleure mais se résigne à l'accompagner. Sur les lieux, elle menace de vaciller, le voyant pousser la voix face aux hommes armés d'Angers. Il est pas loin le commissariat et puis on fait pas de musique devant le palais d'état. Détention sous silence, cellule sous scellée. Entre 4 murs, les voilà prisonniers. La vieille lui dit ce qu'il sait, désormais la révolte est
Edgar Secloca qui a le Cameroun Blues sur RFI. Vous savez pourquoi vous faites du rap, j'ai l'impression, mais est-ce que vous savez pourquoi vous écrivez des romans de 250 pages ?
Je crois que j'écris pour m'expliquer à moi-même d'abord, et puis après pour m'expliquer à ceux que j'aime.
Ouais.
Pour moi, l'écriture, c'était pas, j'y avais pas droit, parce que c'était quelque chose réservé à une élite. Et aujourd'hui... Je me dis que si, non seulement j'ai le droit, mais ça ne veut pas dire que je suis un écrivain, mais plutôt un auteur. Ça, j'accepte ce statut-là. Écrivain, ça veut dire que pour moi, voilà, il y a une dimension où je grandis les personnes qui me lisent et je pense que j'en suis pas là. Pour autant, j'essaye et ça correspond à mon rêve et peut-être qu'en fin d'œuvre, j'y arriverai.
Alors en tout cas, vous campez pas mal de personnages, il y aurait des choses à dire. Vous introduisez aussi une assez belle langue, très riche d'ailleurs, quand on se retrouve sur le terrain du Cameroun. On en vient en sol majeur, on les embrasse d'ailleurs. Une terre où on parle et un livre où on vous lit en franglais, en douala, en mbo, en pidgin. Est-ce que vous êtes à l'aise dans toutes ces langues ?
Pas du tout, mais par contre je me documente énormément parce que c'est des notes de mon enfance, de ma vie. Pourquoi je dis mon enfance ? Parce que voilà, c'est une musique que j'ai, qui fait partie de moi, et j'ai besoin qu'elle existe aussi au niveau de l'écrit. Et là je travaille beaucoup sur le franglais, le cam franglais, qui est une langue savoureuse et qui est très poétique.
Tout ça à retrouver dans Adulte à présent, donc un roman publié aux éditions Sarbacane. Donc l'écriture sous toutes ses formes, au pays de Sekleka. C'est donc d'ailleurs le moment de rendre hommage à la source de ce que vous êtes. La source, c'est votre mère, dont vous avez enregistré la voix.
On connaissait la musique qui venait d'ici, c'est-à-dire des chanteurs d'ici, puisqu'on allait dans les Ubis parties. Il y avait Johnny, Sylvie Vartan, Sheila, Claude François, Otis Redding, et puis les autres, enfin, on connaissait parce que la musique était bonne, on dansait, mais ce n'était pas tellement notre passion.
Et les Camerounais?
Les artistes camerounais, alors là, je ne peux rien dire, puisque il y en avait tellement.
Ah, il y en avait trop.
Il y en avait, mais ce n'était pas notre... Enfin, nous, on n'était pas branchés. On était beaucoup plus branchés musique américaine et française.
Ah, comme a cappella.
Dame des grands manguiers, devenue dame des grands ensembles, et le retour au bled devenu un séjour en vacances à l'âge de la vieillesse, les souvenirs la font voyager, paupières closes, la nomade est avachie sur le canapé, elle hume les arachides grillés que sa mémoire lui sert et se revoit au village avec ses parents, sa sœur et ses frères, elle ouvre les yeux, le fantasme se dissout, il lui suffit d'être seule pour que ses fantômes lui disent tout. Elle est le mobile et le mobilier de la gauche Caviar & Co, bout de bois déraciné, fini objet d'art et déco. Citoyenne cobaye d'un exotisme importé, si les chapeaux de papa y existaient, on lui dirait d'en porter. Mais pas de regret, aucun, et pour faire quoi? Maintenant qu'elle touche sa retraite, c'est plus le moment de faire un choix, pourtant viendra l'heure de s'en aller. Et comme un vent de poussière, elle rapatriera au ciel son âme d'étrange étrangère.
Merci Edgar Sekleka pour... Ce slam, c'est juste un extrait d'un slam intitulé « Il lui manque », donc qui raconte votre mère. C'est comment son prénom à votre mère ?
Martine.
Avec cette phrase chopée au vol, elle est le mobile et le mobilier de la gauche Caviar & Co. C'est-à-dire ?
Elle est le mobile et le mobilier de la gauche Caviar & Co, oui, parce que quand on est arrivé à Puteaux, donc, elle était... L'argument pour la droite, en plus là c'était pas la gauche, c'était la droite RPR, pour dire qu'il faisait des actions sociales. Et, sauf que en réalité c'est pas vrai du tout. Surtout quand on voit comment la ville a évolué. Mmh. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre dans cette phrase-là.
Vous en voulez autant à la gauche qu'à la droite, ou plus à la gauche qu'à la droite par rapport à toutes ces questions liées à l'immigration ?
Autant. Gamin, je voyais les images de Mitterrand. Et pour moi, son charisme, tout ce qu'il représentait, et puis voilà, c'était quelque chose de sain, parce que ma famille avait en parlait en bien, et puis après j'ai rencontré ce qu'il a contribué à mettre en place avec la France-Afrique. J'ai lu François-Xavier Verschave, et je me suis dit, ah quand même, c'est des gens à qui j'en veux, mais...
Donc la France-Afrique, vous vous êtes intéressé à cette question-là, vous êtes intéressé aussi au panafricanisme, et apparemment vous dites en être sorti de cette utopie panafricaine.
Oui, parce que j'étais plus jeune, j'étais en quête identitaire, donc j'avais besoin, et je fantasmais beaucoup l'Afrique, donc j'avais besoin de me considérer africain, d'avoir un retour sur la terre mère, et... sauf que c'est pas vrai, ce serait pas honnête. Par contre, ce que je peux faire pour être en lien avec mon Afrique, et mon Cameroun, et mon Bénin, et les autres pays d'Afrique que je traverse, qui me traversent, c'est de les restituer, ou restituer ce que j'en connais, dans mes œuvres artistiques, et surtout de questionner ma place par rapport à eux.
Ouais, mon père, c'est comment ?
En sol majeur.
Allô ?
@rfi.fr.
C'est comment, gars ? Mais là, tu es que où, non, mon frère ? Tu es sur un allant, il n'y a pas le réseau. Tu es que où ?
En sol majeur, avec Facebook, Twitter, et puis derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki.